Ici, Londres. Voici notre 9e bulletin d'information. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Le cheval bleu se promène.
Vous voyez, je n'ai pas tout perdu encore. J'ai 87 ans. Je me rappelle beaucoup de choses encore. Hein.
C'est bien que vous veniez leur dire.
Ben, il a passé quelque temps qu'on n'en parlait pas, vous savez. On a passé une période vraiment où...
Mon propre grand-père, je lui ai demandé, il ne veut pas m'en parler.
Oui. Non. Je crois qu'il y a eu des périodes où on ne pouvait pas en parler. Elle n'en a pas parlé même à mes enfants, mais après, plus tard. Parce que je n'osais pas. Parce que je n'osais pas.
Moi, je vous remercie d'être venu parce que... Au moins, on apprend des choses sur la guerre avant qu'il n'y ait plus personne qui
a participé
à la guerre.
Il n'y en a bientôt plus personne pour en parler, c'est vrai. Qu'est-ce que je voudrais leur dire? Il faut quand même, quelquefois, vous savez, désobéir, quelquefois, c'est pas interdit de désobéir, quelquefois. On désobéissait pendant la guerre. Quelquefois, il faut désobéir quand on sent que ce n'est pas du tout ça, que ça ne correspond pas à ce qu'il faudrait qu'il se passe. Voilà, quelquefois, on peut désobéir, mais pour des bonnes causes quand même. Hein.
Vous savez, l'histoire n'est jamais écrite. Hein. Nous, on avait 20 ans, vous savez, on ne connaissait pas tous les dessous du maquis, tout ce qui se passait à l'intérieur, même chez nous, vous voyez. Vous savez, on dit que l'histoire n'est jamais écrite, elle ressurgit petit à petit, vous voyez.
Allez, on attaque le rock des Mirabel, les partisans de Mirabel, les maquisards.
Raconte-moi la résistance et le maquis de Prévinquière. Un documentaire sonore du Centre culturel Aveyron-Ségalavior. Rencontre entre les jeunes des écoles et collèges de la communauté de communes et les anciens qui ont vécu cette époque.
Quand on est jeune, qu'on a 17 ou 20 ans, et qu'on devient hors la loi, qu'on se heurte, et qu'on refuse le gouvernement et les décrets et la réglementation gouvernementale du pays, ça devient dangereux, évidemment. Mais on est mis sur la touche de la société à ce moment-là.
Moi, j'avais 18 ans à l'époque. 18 ans, je ne connaissais que dalle. Il faut bien le dire. Hein. Qu'est-ce que je connaissais? Je savais qu'est-ce que c'était les Allemands, je savais qu'est-ce que c'était les Américains. Mais après, à côté de ça, on n'avait rien, aucune nouvelle. Aucune nouvelle, c'est le cas de dire. La radio, si je voulais écouter la radio, il fallait aller chez les voisins. Pas question d'avoir un journal. Alors, tout ce qu'on savait, on le savait de bouche à oreille, de tout ça. Mais enfin, c'est pas pour ça que je suis parti au maquis. Il y avait un peu aussi l'aventure, hein, ça, il faut bien le dire. On avait envie de voir autre chose. Hein.
La guerre a commencé en 1939 et a fini en 1945. En 1940, la France a perdu la guerre contre les Allemands et il s'est formé un gouvernement qu'on appelait le gouvernement de Vichy. Mais certains Français n'acceptaient pas la défaite. Il s'est formé, grâce notamment à Jean Moulin, des mouvements de résistance qui se battaient dans l'ombre contre les Allemands.
Quel âge avez-vous pendant la Seconde Guerre mondiale?
Ah bon, alors, quand la guerre mondiale a commencé, j'avais 17 ans, et à la fin de la guerre, j'avais 22 ans.
Lorsque je suis rentré à la résistance, j'étais employé à ce moment-là au chemin de fer.
Mais à l'époque, quel âge j'avais?
À l'époque, j'avais 20 ans, 40.
Eh bien oui, oui.
Non, 18 ans. 18 ans.
Oui, 18 ans.
Oui.
Personnellement, comment vous êtes rentré dans la résistance?
Ah, alors là,
Il vous faut parler de cette génération, qui était notre génération. Mais là, elle était confrontée à pas mal de problèmes quand même, et à pas mal d'observations. Vous savez, nous, on était ici au collège de Repérou, le vieux bâtiment qu'il y avait là-bas, de l'autre côté. Il y avait comme bâtiment, c'était pas important comme maintenant. On a connu d'abord la guerre d'Espagne, qui était une guerre civile assez épouvantable là-bas, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés espagnols qui ont atterri à Casville, là, dans le bassin houillé. Ils sont restés encore, ils ont fondé des foyers là. Bon, on a vécu cette guerre d'Espagne. On était au collège, on avait des professeurs comme M. Debar ou Coustol, tout ça, qui étaient imprégnés de cette histoire-là, de ce constat aussi, eux, et qui n'étaient pas loin de nous inculquer ce besoin de comprendre comment il fallait aider ces populations et ces gens qui étaient malheureux, qui ne savaient pas où aller. Alors, on a été imprégnés de ce truc-là. On a été imprégnés par nos pères, souvent, qui avaient fait la guerre de 14. 1, 2, 3, 4 ans de tranchées, c'était un enfer à ce moment-là. On n'en parle plus maintenant, parce que ça devient un peu vieillot, maintenant, cette affaire-là. On avait entendu les malheurs de la guerre de 14-18. Et puis, il est arrivé ce coup de Trafalgar, de la guerre éclair de 39, avec un écrasement total de l'armée française, qu'on croyait costaud, et une première du monde, et finalement, ça a été une guerre qui a duré un mois, et ça a été vite replié. Et ensuite, l'armistice, qui a tout écrabouillé, alors, tout ce qui restait. Elle a venu au pouvoir de cet homme-là, qu'on a présenté comme le seul sauveur qu'on était capable de trouver à ce moment-là. Et il est resté, même jusqu'en 1944, on a respecté un peu ce maréchal, ce vieillard, sans trop chercher quelles étaient ses arrière-pensées ou ce qu'il avait accepté de faire, volontairement ou malgré lui. Voilà. Alors, tous ces événements-là ont fait qu'on était un peu bousculés et un peu dirigés vers une résistance et un refus et un recul.
Moi, j'avais déjà basculé, vous voyez, au moment que je me rappelle, quand le cardinal Marty, le curé de Rieux-Péron, nous donnait ces fameux témoignages chrétiens. Il y avait aussi Nouvelle Aurore, il y avait Combat, il y avait un tas de journaux clandestins, vous voyez, journaux clandestins. Et moi, je me rappelle que c'est le curé Marty qui nous avait un petit peu éveillés, vous voyez, à cette résistance à l'occupation allemande. Et puis également, moi, j'avais René Fabre, là, c'était mon plus proche voisin. Il me disait toujours, ne rentre pas encore au maquis, c'est pas encore bien organisé ou autre, le jour où on sera organisé, je te le dirai.
Avant de parler du maquis, je pense qu'il faut se remettre en mémoire ce qu'a été cette époque. Je vais remonter à l'armistice de 1940 et savoir dans quel état la France se trouvait à ce moment-là. Après l'armistice du 17 juin, la France a été coupée en zones occupées et zones libres, avec une ligne de démarcation. Cette ligne de démarcation a eu, de 40 à 42, une très grande importance. D'un côté, donc, en zone dite libre, non occupée, faudrait mieux dire, c'était celle de Pétain, avec le régime de Vichy, et le reste était en zone occupée. J'ai pu naviguer entre les deux à l'époque. J'ai quitté la zone non occupée pour rentrer en zone occupée. Et j'ai traversé la ligne de démarcation. J'étais pas très grand, mais j'en ai quand même un souvenir. Alors je venais ici de la Capelle pour rentrer à Paris. Et sur les coups de 3 heures du matin, on est arrivé à Vierzon. Et sur les quais, on attendait, évidemment, un vocabulaire qui était tout à fait étranger à mes oreilles. Des « hartun, harbit », etc. Et à l'époque, on m'avait cousu des lettres qu'on devait faire passer en zone occupée. Mais enfin, voyez à quel point déjà on vivait sous la pression de l'occupant. De 40 à 42, donc, on a vécu les deux séparés, avec des allées et venues entre les zones très contrôlées. Et dans zone dite libre, s'étaient réfugiés des gens qui avaient été poursuivis dès avant la guerre. C'était souvent des apatrides qui avaient résisté en Allemagne aux Allemands, qui quelques-uns étaient des Allemands, des Polonais. Il y avait également des gens qui étaient poursuivis, c'était des républicains espagnols. Vous voyez, cette population-là ne savait plus où vivre hein, à cette époque. Et on les retrouvera, pour quelques-uns d'entre eux, dans les maquis.
Il y a eu la France coupée en deux, dont les gens qui sont arrivés de la France occupée.
Oui, oui.
Alors, on a eu des gens du Nord, des gens de l'Alsace, on a eu beaucoup de Belges même, il y a des Belges qui sont venus de l'Est, il y a des gens de l'Est qui sont arrivés, et pour nous, ça a été quand même quelque chose de très nouveau, puisqu'on n'était jamais sortis. On était dans notre coin de pays, on n'était pas comme maintenant, hein. Dans le village, on restait dans nos villages. Donc, arrivaient des gens de l'extérieur, des gens qui avaient notre âge, qui avaient 18 ans comme nous, 20, mais qui n'avaient pas une approche de la vie comme nous. Ils nous apportaient un peu de leur connaissance, de leur façon de vivre. Et ce n'était pas la même chose que nous, quoi. Ça nous faisait du monde à voir. Mais en même temps, il y avait la guerre, bien sûr. J'ai travaillé à Paris, il n'y avait pas longtemps que la guerre était finie. J'avais connu beaucoup de personnes qui avaient souffert de la faim. Ils racontaient ces choses-là. Et l'exode. Moi, j'avais des collègues qui me racontaient l'exode de Paris, qui ont tout abandonné, qui sont partis. Et tout ça, nous, ici, bon, on n'avait pas vécu.
La première résistance qu'il y a eu, de toute façon, c'est un peu l'Assemblée nationale qui en était au départ. Parce que quand Pétain est arrivé au pouvoir, il n'a pas pu prendre le pouvoir sans avoir l'aval des assemblées, Sénat et Assemblée nationale, lui donnant le quitus pour pouvoir prendre le pouvoir. Et ça, ça s'appelle, à ce moment-là, demander les pleins pouvoirs. Et ils ont voté. Et il y a eu 500 et quelques oui pour le lui donner. Il y a eu des abstentions, quelques abstentions. Il y a eu 80 non. Dans l'Aveyron, ici, il y en a un qui a refusé. C'était Ramadier, qui était député de Cazeville, alors que les 5 ou 6 autres députés ou sénateurs ont tous voté oui, sauf un, Bastide, qui s'est abstenu, dans l'Aveyron. Ils étaient 6. Alors là c'est un premier acte de résistance, ça a commencé là, en 40. Au départ, l'État français, c'était plus la République française, je vous ferai voir tout à l'heure, si vous voulez le voir, la glissade qu'il y a eu entre la République française et l'État français, le triptyque liberté, égalité, fraternité, remplacé petit à petit par travail, famille et patrie, et tout ça, ça s'est passé en quelques mois, en quelques années, assez rapidement, est arrivé à la constitution de ce qu'on appelait la milice française. Là, c'était encore plus grave. On embauchait des Français pour non seulement faire la police et garder le calme, ou rétablir le calme là où il n'était pas, mais pour attaquer les résistants et tous ceux qui ne respectaient pas les règlements de l'État à ce moment-là, pour emprisonner tous ceux qui étaient rétifs quant à la marche de cette révolution nationale.
Combien de temps la résistance a-t-elle duré ?
Pour moi, elle a duré depuis le début 1944 jusqu'au mois d'août 1944. Alors ce qui fait en gros un an pour moi. Mais il y a la résistance, elle a été effective pour beaucoup de gens de façon individuelle parce qu'ils avaient conscience du malheur qui accablait la France et ils s'étaient mis en devoir de créer d'abord le plus de gêne possible à l'ennemi. Et il y en a eu de la résistance. Il y en a eu dès que les troupes allemandes sont rentrées sur le sol français. Vous voyez, la résistance, ça n'a pas été quelque chose qui est parti un même jour dans tout le pays. Il y a des régions, même par chez nous en Aveyron, là, il y a des gens qui ne se sont pas aperçus que la résistance existait.
Est-ce que vous avez aidé à résister ?
En 1942, j'ai transporté, j'ai communiqué, parce que j'étais institutrice de Cazeville, j'ai transporté des lettres à M. Ramadier. M. Ramadier était un député de l'Aveyron qui n'avait pas voulu donner les pleins pouvoirs à Pétain, donc, et qui était assigné à rester à sa maison et ne pas bouger. Donc, si les gens voulaient communiquer avec lui, il fallait qu'on transporte des lettres clandestinement. Voilà. C'est-à-dire que les lettres ne passent pas par la poste. Ça, c'est une chose que j'ai faite naturellement, sans penser à voilà, comme oui, ça.
Comment était la vie pendant l'occupation de la France ?
Ah, comment était la vie ? Oh, tu sais, c'était compliqué tout ça. Hein. La vie était difficile, difficile dans les villes. On n'avait pas suffisamment à manger. Vous savez qu'il y avait des cartes d'alimentation. Vous en parlerez avec vos grands-pères, ils vous parleront. Il n'y avait plus les choses essentielles. Parce que les Allemands, qui prenaient tout ce qu'il y avait dans le pays. Par exemple, ici, dans les campagnes, il fallait amener les vaches, les veaux, les cochons au ravitaillement. Ils prenaient du blé, ils prenaient la paille même. Tout ce qu'il leur fallait, ils le transportaient en Allemagne pour leurs armées. Donc, il ne restait pas grand-chose à manger. Donc, dans les villes, ils étaient très ennuyés. Ici, à l'Escurlaoul ou à la Salvata, on a toujours bien mangé. Parce que, à la place de vendre les cochons, à la place de les amener au ravitaillement, ils les tuaient à la maison. Comprenez, ils avaient de quoi manger. On cultivait, il y avait de quoi manger dans les campagnes.
Quel métier faisiez-vous pendant la guerre ?
On travaillait la terre. Ah, oui. On était fils d'agriculteurs, et alors on travaillait la terre.
Les Allemands venaient chercher chez nous à manger, faisaient de la réquisition.
Le gouvernement de Vichy avait instauré des chefs de district. Ces chefs de district étaient à la merci des Allemands. Et alors, ils venaient dans les fermes.
On te réquisitionnait du blé, tu étais obligé de donner de la farine.
La maman de ma mamie avait une carte d'alimentation pour aller chercher à l'épicerie quelques aliments. Le sucre, café, des pâtes, etc.
Alors, il arrivait quelquefois que les gens de la ville venaient se ravitailler à la campagne, chercher ce qu'il fallait. Ils venaient chercher du lard, ils venaient chercher de la saucisse, ils venaient chercher des pommes de terre, ils venaient chercher tout ce qu'il fallait. Et surtout les gens du midi, parce que là-bas, ils n'avaient que du vin. Alors, pour manger. Alors, ils transportaient un peu de vin, et puis on leur donnait du lard, ou on leur donnait des œufs, on leur vendait. Pas trop cher, pas trop cher. Quelquefois, il y en a qui abusaient un petit peu, qui le vendaient un peu plus cher. Et on appelait ça le marché noir.
Est-ce que vous étiez pauvre ?
Je ne sais pas comment vous expliquer. On n'était pas pauvre. Hein. Je ne sais pas comment. On n'avait pas tout ce qu'on voulait, bien sûr. Hein. Bon, par exemple, pour trouver une bicyclette, c'était très difficile. Et alors, quand il fallait changer les pneus, tu sais, on n'avait pas de pneus. Alors, il y avait des gens qui faisaient une espèce de rouleau, tu sais, avec du tissu pour marcher en bicyclette. Les camions et les autobus, il n'y avait pas d'essence. Alors, ils faisaient ce qu'on appelait le gazogène. C'est-à-dire qu'ils mettaient du bois, qu'ils allumaient, et ça faisait l'énergie nécessaire pour faire marcher le camion. Alors, il y avait par exemple un autobus de Rieux-Pérou. Eh bien, pour monter la côte du port de la Besse, il n'allait pas plus vite que si on marchait à pied. Alors, les gens, quand ils allaient à Carmaux, ils voulaient prendre l'autobus. Alors, les jeunes, ils marchaient à pied sur la côte de Mirandol. Ils étaient aussi vite à Mirandol que l'autobus avec son gazogène. Je l'ai vu, ça. Avec le gazogène, oui. Alors, les autobus étaient chargés au possible, parce qu'il y avait toujours des gens qui venaient chercher du ravitaillement et qui mettaient des sacs de pommes de terre et des sacs de ceci. Et de temps en temps, à la descente de l'autobus ou tout ça, ou quelqu'un qui avait dénoncé, il y avait les gendarmes ou la police qui reprenaient les sacs de pommes de terre qu'ils étaient venus chercher bien loin, jusqu'ici. C'était pas facile, hein, parce qu'on était surveillés de partout. On ne pouvait pas faire n'importe quoi, il ne fallait pas trop parler, il ne fallait pas trop raconter. On était toujours surveillés.
Ah ben oui, Raoul Berthaud a été déporté.
Mais c'est le seul qu'on a connu vraiment.
Et qu'on a connu vraiment, oui.
C'était qui?
C'était un résistant, un jeune qui était à la Salvata, qui a été vendu, je ne sais pas comment. Bonjour, le gendarme.
Il venait pas de Nantes, de quelque chose comme ça, il venait.
Eh bien, il avait
c'était
été.
C'était un jeune qui était venu à la Salvata pour se mettre à l'abri.
Oui, oui.
Voilà, qui a été dénoncé après.
Il a été dénoncé, on l'a pris.
Il a été en camp de concentration, je crois.
Oui, oui.
Mmh. Où était organisée la résistance?
La résistance s'est organisée sur place, dans nos villages.
Quand il y avait deux bonhommes qui n'étaient pas contents de l'affaire, ben, ils en parlaient. Puis on en parlait avec un troisième. On réussissait toujours à avoir des oreilles favorables à ces petites discussions de quartier ou de famille, tout ça, à droite ou à gauche. Alors ça formait des petits groupes complètement désorganisés quand même, parce que la résistance au départ n'a pas été organisée. Et alors, petit à petit, ces gens-là ont trouvé des oreilles favorables à la discussion, au groupement. Et ça s'est formé. On a formé des fois des groupes politiques. Les communistes d'un côté, les socialistes, les modérateurs, etc. Les groupes dans l'éducation nationale. On a appelé ça le NAP, le noyautage des administrations publiques, avec des gens volontaires comme ça, qu'on a glissé petit à petit dans les administrations, dans les PTT, dans l'enseignement, dans les chemins de fer, dans toutes les branches de l'activité ordinaire dans la société. Alors, on a essayé de lancer des antennes un peu partout, pour avoir des oreilles favorables qui écoutent ce rejet et ce recul devant la mise en place de la révolution nationale de Pétain. Et ça s'est amplifié petit à petit.
Pourquoi avez-vous envie d'être résistant?
C'est une très très bonne question. Au moment de la débat, je n'ai pas très bien compris moi la situation. Je me trouvais à Gaillac à ce moment-là. On était jeunes, on n'avait pas la connaissance de tous les antécédents. Pour rentrer à la résistance, on n'y a pas pensé tout de suite, c'est pas vrai. Comme vous avez des camarades. Eh bien, moi, même à 15 ans, 16 ans, 17 ans, j'avais des camarades aussi. Et puis il y en avait avec qui on était vraiment amis, et j'allais chez eux, ils venaient chez moi. Un jour, le père de l'un d'eux a étudié la situation, certainement, et c'est là, petit à petit, qu'il m'a... On pourrait dire sonder, je ne sais pas si c'est exact le mot. Enfin, il a cherché à savoir vraiment s'il pouvait éventuellement compter sur moi. À force de renseignements, ça a dû le satisfaire. Et c'est là qu'il m'a proposé de participer avec eux à la résistance. Mais à la résistance, mais pas au maquis. Mais enfin, je suis rentré à la résistance comme ça, tout à fait. C'est pas par hasard, mais enfin, c'est un petit peu un concours de circonstances qui ont fait que je suis rentré à la résistance. Bien que... De cœur, j'avais mûri au cours des événements, j'avais mûri et j'étais contre l'occupation allemande.
Comment on est rentré à la résistance? Eh bien, c'est moi donc. Mon père qui était un ancien combattant, le CEG qui nous avait inculqué cette affaire-là, la fermeture de l'école normale en 40 par Pétain, tout mon homme qui voulait faire instituteur, il y en avait la moitié qui était au collège qui demandait d'être instituteur à ce moment-là. Mais là, ceux qui voulaient faire instituteur ont été bloqués complètement, école normale supprimée. Et alors, nous, quand on est sortis du collège, complètement bloqués, on ne pouvait plus faire instituteur, on a cherché des travaux. Les uns sont partis dans les ponts des Chausses et travaillaient un petit peu. D'autres sont partis avec des entreprises qui travaillaient sur les routes ou autre chose. D'autres sont partis dans le cadastre, ça tournait toujours. Alors, on a cherché des petits boulots comme ça, mais dans notre promotion, il y en a énormément qui se sont engagés. Armée de terre, armée de l'air, armée de mer. C'est parti à l'armée, parce que l'armée, à ce moment-là, a eu l'avantage et les possibilités de recruter 40-42. Les conditions d'armistice avaient prévu de laisser à la France une armée de l'armistice de 100 000 hommes, qui est restée jusqu'en 42. C'était un échappatoire pour en attendant autre chose, quoi. D'ailleurs, dans l'armée, on a retrouvé beaucoup de groupements militaires qui s'étaient constitués de 40 à 42, qui ont glissé petit à petit vers les maquis, comme la Mona, à côté de Millau ou autre chose. Moi-même, je suis parti à la marine en 42. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé quelques 6 mois dans la marine, et puis ensuite, il y a eu le sabordage, l'occupation de la zone libre, le sabordage. dans un fracas épouvantable, là, tous les bateaux au fond de l'eau. Et comme on était 40 ou 50 000 marins, il a fallu en faire quelque chose. Quoi. Et on nous a mis en congé à l'armistice, on nous a envoyé chez nous. On est rentré chez nous. Et que faire chez nous? On est allé s'engager comme journalier, comme travailleur agricole, comme travailleur dans quelques petites usines, dans droite à gauche, pour gagner 4 sous, etc. Mais on a retrouvé ces groupes déjà qui se constituaient et qui étaient mécontents du système gouvernemental d'alors. Et on sait un peu, en étant les anciens militaires, là, tous ceux qui se sont engagés, ont essayé de regrouper des gens et de former des petits groupes de résistance. Pour faire un groupe de résistance, il fallait d'abord trouver un copain, deux copains, trois copains, qui veuillent bien parler de ça et être d'accord avec les orientations qu'on prévoyait. Et il fallait, de bouche à oreille, il fallait que ça fasse boule de neige et petit à petit grossir, avoir des sixaines par six, des centaines par cent, ou au moins par groupe de six, et se mettre avec d'autres groupements plus importants. C'est ce qui est arrivé chez nous. À la Fouillade, j'ai fait un petit groupe, d'abord 5 ou 6 copains, ensuite 9 ou 10, ensuite 12 ou 14, etc. Quand on a été une quinzaine, j'ai mis ce groupe sous l'autorité du groupe de Najac, qui était déjà bien constitué, qui était déjà le prélude au maquis du Guéclin.
Est arrivé 1942. 1942, c'est Stalingrad d'un côté, et c'est le débarquement des Américains en Afrique du Nord. Alors, une des conséquences de Stalingrad, c'est 500 000 Allemands capturés par les Russes. L'armée allemande se trouve saignée à blanc, obligés qu'ils sont de retrouver des soldats. Ils vident les usines allemandes, seulement il fallait de la main-d'œuvre pour remplacer les Allemands qui partaient sur le front. D'où une rafle sur toute l'Europe, et y compris la France, une rafle de main-d'œuvre. 1942, j'ai dit le débarquement des Américains. C'est en même temps la France occupée, cette fois-ci, en totalité. Les Allemands, craignant que les Américains puissent débarquer éventuellement, alors qu'il y avait déjà un contrôle de la Méditerranée, indirect mais assez poussé. Enfin, il y avait encore eu un embryon d'armée française sur la zone dite libre. À cette époque-là, la France se trouve maintenant totalement occupée par les Allemands. Et alors là, il n'y a plus un coin de France, si vous voulez, où on puisse être à l'abri. Donc à partir de 42, après 42, j'ai dit novembre, vous voyez, on saute à 43. Et alors là, les gens sont obligés de trouver un refuge quelque part. Vient à ce moment-là le STO, le service obligatoire des travailleurs en Allemagne. Et alors là se trouvent concernés, au début, tous ceux qui n'ont pas de charge de famille relativement jeune. Bon, il y a une première qui se laisse prendre, comme ça on en prend un peu. Mais après, alors on partait pour 6 mois, on avait droit à une permission de 15 jours. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup ont oublié de revenir. Seulement, ils étaient recherchés et par la police allemande, et ça je l'ai vu, j'avais un de mes oncles qui avait... Et on venait nous tous les 8 jours nous demander où était la personne, ce qu'elle devenait. Alors on jurait mordicus qu'ils étaient repartis. Et alors ça a été le début, vraiment, où les maquis, en nombre, ils existaient avant. Il y avait des réseaux de résistants. Mais à ce moment-là, il y a eu un plus grand nombre de personnes qui devaient se cacher. Et alors ce qui était dispersé au début, c'est devenu maintenant l'armée de l'ombre.
C'est quand même un appel à la guérilla, à la lutte armée. Ah ben oui, là, il s'agit plus de dessiner des croix de Lorraine à la craie sur les murs. Hein. Ah non, ouvriers, paysans en armes, ouais. Grenades, pistolets, tout, enfin. Quand je te dis qu'elle en a, la petite Marie, c'est le chant des partisans. Voilà, ça, c'est bien comme titre, ça, non?
«
Quels souvenirs avez-vous de la résistance?
C'est une grande, grande question, ça. Tu me poses une grande question. Mais c'est un souvenir de solidarité entre gens de la résistance. C'est un esprit de grande solidarité, de sacrifice envers son prochain immédiat et sans calcul. Lorsque un chef de la résistance avait décidé de faire telle ou telle action, il disait, mais tu t'appelles, mettons, comment tu t'appelles?
Marcel.
Marcel, et bien tu disais un jour à Marcel, demain tu vas partir, tu vas faire ça, ça et ça. Mais tu disais oui, d'accord. Tu ne regardais pas si tu étais père de famille, tu ne regardais pas si tu étais... Tu ne regardais rien, tu partais pour faire. Tu ne demandais pas d'explication, tu partais pour le faire. Voilà. Une grande discipline et une grande solidarité.
Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place.
Est-ce que vous viviez caché?
Non, je ne vivais pas caché. Lorsque je suis rentré à la résistance, j'étais employé à ce moment-là au chemin de fer. J'habitais Gaillac, moi, mais je travaillais à Toulouse. Et pour me permettre de revenir, changer mes affaires, mes vêtements pour la semaine ou autre, on nous donnait ce qu'on appelait une carte de circulation sur le trajet Gaillac-Toulouse à tout instant, quand on voulait. Et au dos de la carte, il y avait un Bannausweis, c'est un laissez-passer allemand, c'était un aigle qui tenait dans ses griffes une couronne, comme une couronne de laurier, au centre de laquelle il y avait une croix gammée. Et ce Bannausweis nous garantissait la libre circulation dans les enceintes de la SNCF et était bien utile aussi sur nos trajets d'hiver, y compris nos trajets de résistants.
Transportez-vous des messages?
Oui, justement, on parlait de cette carte de circulation qui nous permettait de décliner notre identité assez rapidement et puis d'être en confiance avec l'occupant, puisque c'était tout écrit en allemand derrière. Hein. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'étais jeune, comme tous les jeunes, hein, comme vous autres, hein. Je souhaitais aller au maquis. Et bien là, mes responsables à la résistance n'ont pas voulu que j'aille au maquis, parce que j'étais trop utile avec ce laissez-passer qui me permettait de circuler librement. Voilà.
Qu'avez-vous fait pour la résistance?
Oh, pas grand-chose, je suis modeste, moi, en tant que résistant. Je n'ai jamais commandé personne, ou presque. Maintenant, j'ai l'allure d'un vieux papy. Mais à l'époque, j'étais un peu comme vous maintenant. J'avais l'allure d'un gamin, hein, à 16 ans ou 17 ans. Hein. Grâce à cette carte, je pouvais circuler. Alors donc, j'ai fait beaucoup de liaisons pour informer de droite à gauche des uns aux autres, et comme ça. Ou de transporter même des tracts, vous voyez, ce qui est une chose essentielle. Après, ce qu'on a fait, des sabotages de voies de chemin de fer, et puis également, nous avons libéré le 13 juillet 1944 30 détenus politiques qui se trouvaient dans la prison de Gaillac. Je vous expliquerai comment tout à l'heure. Vous verrez que ça a été formidable. Parce qu'ils sont venus atterrir ici, du côté de Bourgognac, hein, après, ces gens qu'on a libérés. Voilà ce qu'on faisait pendant la résistance, hein, et y compris coller des affiches. Là, quand nous y allions, il fallait trouver un temps serein, c'est-à-dire calme, parce qu'on y allait en sandales, de façon à être même de courir si c'était nécessaire, en principe déguisé. Hein. De façon à ce qu'on ne puisse pas dire on a vu un tel que, même quelqu'un qui innocemment dirait mais j'ai vu passer, je m'appelle Poux, j'ai vu passer Poux, comme ça il ne pourrait pas le dire parce que j'avais ou un foulard et une casquette qui faisait un peu voyou peut-être des fois, une autre fois un peu militaire puisque c'était une casquette d'aviateur, ça m'est arrivé et voilà, mais c'était des actes. Si on est pris, c'est fini. Hein. C'est fini, c'est l'arrestation, bien sûr, le questionnaire, comme vous n'allez pas répondre, c'est la torture. Et puis alors ensuite, c'est l'échéance, c'est ou le camp de concentration, ou même condamné à mort tout de suite, et fusillé.
En allant au maquis, ils avaient l'impression de rentrer déjà dans un groupe, au lieu de rester isolé quelque part. Le gars qui se cherchait encore, il ne savait pas très bien, eh bien il voyait qu'il allait au maquis parce qu'il allait dans un groupe qui était constitué et qui était déjà bien implanté. Il avait une impression de sécurité, autre que rester chez lui, à la merci d'une descente de police, de la milice ou de la gendarmerie.
D'ailleurs, vous voyez dans le bouquin, je pense qu'on l'a très bien mis. Et vous l'avez là, Alette.
Alette. Le sergent Franck.
Des sergents Franck. Et lui, il était venu avec un groupe de la fouillade, il les avait amenés là-bas à Mirabet. Les sabotages, vous voyez, dans ses pèlerins. Il était mécanicien et c'est lui qui s'occupait du parc automobile. Les premiers qui sont rentrés au maquis, Georges Alette en faisait partie. Hein. Ils sont allés dans une cabane de bûcheron. Début 44. Seulement les gens arrivaient, bon, comme moi, les gens arrivaient, et un beau jour ils ont dit, mais c'est pas possible, où c'est qu'on va les loger? Et également, les dirigeants ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait cette masse de jeunes qui arrivent. C'est pourquoi après on leur a trouvé, d'ailleurs, c'est Madame Diette, qui était institutrice à Mirabel, qui a été voir un paysan là-haut de regarder, pour lui dire, mais est-ce que tu ne nous autoriserais pas à monter un camp pour les jeunes qui s'amènent au maquis? Et alors c'est dans ce camp, d'ailleurs là, dans le camp, Bourtomieu y a été, André Bourtomieu y a été. Alors il y avait des cabanes de branchage, enfin vous le lirez. C'était, vous savez, c'était des folklos. Des folklos.
Bonjour, monsieur Isali. C'est monsieur Isali, c'est lui qui a transporté le Regardé de Rignac. C'est un des habitants de Regardé, le village qui dominait le camp principal du Guéclair, là-haut. Qui était un village où il y avait 7-8 habitants à ce moment-là, et que pratiquement on a occupé, maquis du Guéclair, on a occupé, regardez, ils nous ont cédé tous les hangars, les granges, les remises et tout ça, pour mettre des stocks de carburant, des stocks de fées, des stocks de les fours pour faire du pain, etc. etc. Et ils descendaient avec des bœufs, à ce moment-là il n'y avait pas de machin motorisé, avec des bœufs et le char pour nous descendre les armes ou le ravitaillement lourd, ce qu'il y avait de plus lourd au camp. Voilà.
Mais il était tout jeune, hein. Il avait 12 ans.
Hein.
15 ans.
Ouais. Et le maquis avait occupé le coin complètement. C'était les rois du coin. Alors là, on ne leur faisait pas de mal, ils nous aidaient bien, et on les aidait aussi comme on pouvait. On les a aidés à moissonner.
C'était vraiment en famille. Hein.
Ouais.
Alors le maquis s'est installé tout à fait en 43. Il n'y avait que, d'après ce que j'ai pu savoir, qu'une quinzaine de personnes. Ils s'étaient installés sur la rive gauche, dans un village de charbonniers. Mais c'était sur un chemin très passant. Et très rapidement, quand le monde a afflué, ils ne pouvaient pas rester là en trop grand nombre, ils sont passés sur la rive droite et ils ont trouvé le camp, comme ça, il y avait une grande prairie, un petit bâtiment en dur et un poste de commandement, ce qui était. Et le lieu dit, c'était à mi-pente, à Mietzocholl, en patois, à mi-hauteur, où il y avait eu autrefois une petite ferme, là. À partir de là, le camp s'est organisé. Le maquis du Guéclair a surtout servi à former des jeunes. L'apprentissage du maniement des armes, démonter, et quelques exercices à faire. Donc le maquis du Guéclair a été, sinon le plus important, mais l'un des plus importants de la région, vu le nombre de personnes qui y sont passées pour leur instruction. C'est un peu paradoxal d'appeler du Guéclair, qui est évidemment une image de la résistance, mais qui luttait contre les Anglais. Là, ils ont mal appris leur histoire. Alors, j'imagine du Guéclair, bon, c'est ce fameux soldat Charles V, donc, qui a combattu les Anglais et qui a redonné à l'époque un lustre à l'armée française de l'époque. Donc ça apportait ce nom-là. Et bon, et après, bon, souvent, le maquis de Prévinquière. Alors qu'il n'est pas installé, justement, sur... C'est en limite, mais c'est juste sur le bord. Il y a le ruisseau, donc, des Périers, qu'on appelle le ruisseau du Gaugiran, qu'on remonte, qu'on longe pour arriver au maquis. Et l'emplacement même du maquis est juste en limite, mais il est du côté de Rignac.
C'est à regarder. Mais là, c'est là où était le PC du maquis, chez mon oncle. Vous voyez ? À regarder. Le PC, il était là. Là où il y avait le colonel Leroy, le commandant Wurtz, ainsi de suite. Et vous avez là M. Diette, qui était instituteur à Mirabel et qui a été capitaine après au maquis. Alors lui, il s'occupait des corps francs. Et sa femme, qui était institutrice à Mirabel, était une Mayobio de Rieux-Pérou. Et elle servait d'agent de liaison. Mais ils n'étaient pas mariés encore à cette époque-là.
Et comment on devenait capitaine ? Parce qu'il était instituteur. Ah, mais c'est-à-dire
qu'il était instituteur, mais tous les gens qui avaient un peu de savoir ou qui voulaient se former, voyez, au contact de Leroy, de Verdier, d'Esquirol, voyez, il fallait bien qu'on désigne des responsables. Et en désignant des responsables, on ne pouvait pas désigner un gars comme moi. Il fallait quand même que ce soit un peu, qu'il soit une certaine connaissance, une certaine psychologie des choses, de mener les hommes, vous voyez ce que je veux dire. Et vous aviez là l'hôtel du Nord. Il n'a pas changé. Hein.
Non, il n'a pas changé.
C'est là où avaient lieu les réunions secrètes entre eux. Là, vous avez la Crémer. Et au maquis, il s'appelait Rispal. Il ne fallait pas avoir des noms de famille, parce qu'ils pouvaient se retourner les Allemands contre nos familles. Hein. Là, c'était Igonet, qui était ingénieur dans les ponts et chaussées. Il était à Rodez. Là, c'est M. Coustol, qui était également ingénieur dans les ponts et chaussées, qui a été après capitaine, il était de Rignac. Et là, c'est le commandant Bonnefous, qui commandait après les maquis de l'Aveyron, voyez, les régions.
Comment vous avez appris à tirer avec une arme ?
Comment j'ai appris à travailler avec une arme ? Ah oui, mais personnellement, j'étais à la manine. On m'avait bien appris un petit peu, quoi, pendant quelques mois, à m'en occuper. Mais enfin... C'était militarisé, ouais, c'était le patron qui était un ancien militaire, eh bien, on avait monté un mât, et tous les matins, à 8 heures, on montait les couleurs. La garde des couleurs, c'était une section de Malgache, qui était issue de la prison de Villefranche quand on les a libérés. Ils étaient en prison. Parce qu'en prison, le père Pétain, il avait foutu en prison tous les communistes, tous les juifs, tous les tziganes, tous les étrangers, qu'ils soient congolais ou qu'ils soient malgaches ou... C'était là, et tout ça, quoi, de couleur. Ils étaient tous en prison. Alors on les avait libérés, un beau jour, à la prison de Villefranche. Alors, on a hérité au moins d'une section de Malgache. Et c'était eux qui étaient à la garde, là, ils présentaient les armes, quoi. On apprenait le maniement des armes quand on était en journée d'instruction. Soit on manœuvrait, on crapahutait dans la colline, là, pour faire des simulacres de défense ou d'attaque de quelque chose, ou alors dans le pré d'entraînement, qu'on avait un peu plus bas là-bas, et bien là, on avait des instructeurs qui nous démontaient les mitrailleuses, les mortiers, les mitraillettes, etc., et qui nous donnaient des conseils.
Avez-vous eu des surnoms ?
Les surnoms. Quand on arrivait au maquis, la première chose qu'on faisait, c'était vous étiez accroché, si vous arrivez au pont de Mira, au pont de Prévinquière ou à Mirabel, vous étiez accroché par un gars, un ou deux gars qui vous amenaient au camp. Le camp était à Mirresol, à mi-chemin entre Mirabel et le pont de Prévinquière. Et là, vous arrivez là, la première chose qu'on faisait, vous voyez le commandant de camp, qui se fait appeler Leroy, mais qui en réalité s'appelait De Villiers. C'était un ancien colonel de l'armée, qui s'était fait commandant parce qu'il estimait qu'un colonel ne pouvait pas commander que sans mon homme. Bon, il s'était fait commandant, il était très gentil avec une canne, le système autrefois, vous savez, l'officier de la canne, et vous recevez, il vous parlait avec vous, il vous faisait parler, et vous passiez à un petit secrétariat qui prenait votre nom, vos prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance, ça, l'état civil. On vous demandait l'état civil, et on vous demandait de prendre un surnom, un pseudonyme, voilà. À tel point, c'est qu'après, on ne se connaissait plus par le nom de famille, au maquis, on se connaissait par le surnom. Lui, c'était Miu.
D'accord. Miu.
Miu. On ne connaissait pas sur le nom de Bourtoumieux, c'était trop long, mon mion. Bon, ouais, voilà, c'est aussitôt ça, quoi. Le surnom, ça, c'était assez marrant, parce que quand on arrivait seul, on cherchait, on trouvait toujours quelque chose. Mais quand on arrivait en groupe, on avait des choses assez désopilantes, c'est-à-dire que si le premier disait hirondelle, l'autre disait fauvette, l'autre disait merle, l'autre disait rossignol, etc. S'il partait sur les fleurs, c'était une série de fleurs, une série d'apéritifs, Saint-Danon, Raphaël, Pastis, des trucs comme ça. Oui. Alors, ça, le premier qui cherchait quelque chose, l'autre, ça suivait, il y avait des filières comme ça. Et enfin, chacun avait un surnom. Voilà. Pour marquer comme qui, on vous demandait de prendre un surnom pour que les familles ne soient pas ennuyées par la suite, parce que vous étiez parti en maquis. Mais on faisait quand même des opérations qui, moi, personnellement, j'avais estimé à ce moment-là, j'estime toujours que ce n'était pas tellement recommandé, parce qu'au maquis, on nous donnait une carte rouge,
ouais, la carte
de présence au maquis du Guéclin. Elle était rouge. Et vous aviez aussi le prénom et le matricule et la signature du chef de camp. Et alors, d'une part, au recto, vous aviez un texte en français, au verso, en allemand, qui signalait que vous étiez un combattant régulier, vous n'étiez pas un franc-tireur, etc., etc. Mais si on vous prenait avec un pétard ou une mitraillette et cette carte rouge, eh bien, c'était pas la peine d'expliquer qu'est-ce que vous étiez. Je pense que ça n'aurait pas servi à grand-chose. Au contraire, je pense que ça aurait été un moyen de vous coincer rapidement, sans vous demander d'explication. Ouais. Voilà.
Comment nous
communiquions?
Oui.
Mais c'était... tous les résistants ne communiquent pas entre eux, c'est pas vrai. On était, dans la formation où j'étais, c'était par triangle, un petit peu. Il y avait un responsable du triangle qui, lui, était en liaison avec deux autres. Il n'y avait que dans le maquis où on se connaissait tous. Mais dans la résistance, c'était pas possible. Il fallait connaître le moins de monde possible, parce que si on est celui qui est arrêté, il est battu à mort jusqu'à ce qu'il parle, par les machins les plus atroces. Alors, pour éviter la force de souffrance, on dit, écoutez, je vais vous dire ce que je sais. Et alors, à ce moment-là, si on en sait trop, on désigne trop de monde, on couperait de l'ennemi. Voilà.
Oui, alors il y avait quand même aussi la radio clandestine. Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui.
Non,
communiquait aussi par des journaux, mais des journaux qui étaient imprimés clandestinement. C'est-à-dire qu'on les cachait dans des valises, on les transportait dans des valises, voilà, on les cachait. Et puis les résistants aussi écoutaient secrètement, en se cachant, la radio, parce que la radio existait. Notamment, il y avait des messages qui venaient de Londres, où il y avait une partie de la résistance qui était à Londres avec le général de Gaulle. Et le fameux appel du 18 juin a été diffusé depuis Londres. Et il a été entendu par un petit nombre de gens. Hein. Ce n'est pas comme aujourd'hui. On n'ouvre pas la radio ou la télé et on ne voit pas le général de Gaulle. C'était quelques-uns qui, clandestinement, ont entendu l'appel du général de Gaulle qui disait « Bon, Pétain a signé l'armistice, mais il faut résister. Voilà. »
Vous voyez, elle vient de citer l'appel du 18 juin. C'était valable pour les hauts responsables nationaux. Hein. Ça, je vous raconte, raconter l'histoire.
Pour un dernier point sur la communication, les grands chefs communiquaient avec un langage codé. Il y avait des codes. C'est-à-dire, par exemple, quand le débarquement a eu lieu, le message qui a été envoyé sur les radios au chef de la résistance, c'était pas les Américains et les Anglais débarquent en Normandie. C'était les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Donc il y avait des codes où les carottes sont cuites, où je sais pas, il y avait des choses, des codes qui n'avaient rien à voir. Et donc on savait que si tel message était annoncé à la radio, c'est qu'il se passait telle ou telle chose. Et c'est très important ce langage codé. Hein, voilà.
Ici Londres. Voici notre 9e bulletin d'information. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Le cheval bleu se promène sur l'horizon deux fois. Il fait campagne tous les trois jours. Il n'y a plus de tabac dans la tabatière.
Ici. Hein, à l'Escure-Jaoul, à Planèse. Tout le monde connaît Planèse ? Vous connaissez Planèse ?
Oui, oui.
Eh bien, il y avait un maquis FTP, ces jeunes, ils étaient là pour recevoir des armes. Qui allaient arriver comment ? Est-ce que vous savez comment elles arrivaient, les armes ? Non, c'était des avions qui partaient d'Alger ou bien d'Angleterre et qui venaient la nuit parachuter. Vous avez entendu parler, peut-être vos grands-parents vous en ont parlé, ils parachutaient des armes. Hein ? Mais avant de lancer le parachute, ils avaient communiqué par des messages qu'on entendait à la radio. Alors, pour entendre ces messages, il fallait écouter la radio anglaise le soir. Et c'était brouillé, ça faisait... On n'entendait pas très bien, les messages étaient là. Par exemple, j'aime à regarder par la lucarne. Ce message, c'était le maquis de Villelongue, du côté de Nocelles, qui le recevait, celui-là. Les messieurs là, du maquis, ils savaient, celui qui était au courant, ils savaient quel était son message.
Nous, les parachutages se faisaient à Lunac, au-dessus du terrain qui s'appelait Nurse, avec un indicatif, c'était le U, en morse, U, deux points entrés, qui était sur les plaines au-dessus de Lunac, sur la route qui va de Bord, de Bord-et-Bar, à l'Escure-Jaoul. Le jour du parachutage, on mettait 5 projecteurs, il y en avait 4 en ligne droite et un 5e par le travers, ça donnait la direction du vent à l'avion, pour larguer ses parachutes face au vent. Et alors, il larguait ses conteneurs là-dessus, ça roulait sur la route, ça roulait à côté un peu partout, mais enfin, on l'a récupéré quand même. Nous avions un groupe qui avait été formé fin juin avec les étudiants de Villefranche. Un groupe important de scouts, il y avait des éclaireurs, deux groupes éclaireurs et scouts. Il y a un groupe important de chaque côté, aussi important que l'autre. Alors, le patron c'était Touze, et le sous-fifre c'était, comment il s'appelait, Yesso. Yes, il y avait une quinzaine ou 20 bonhommes dans une ferme désaffectée là-haut, qu'on avait occupée, qui se trouvait à 1 km à peu près du terrain de parachutage, un peu en contrebas. Et alors, chaque fois qu'il devait y avoir un parachutage, qu'on recevait l'avis par les messages personnels, là, eh bien, ils montaient une équipe d'en bas, et en même temps, le transporteur de l'UNAC, M. Nouvial, était alerté pour qu'il soit là avec le camion. Il avait un P-35 à gazogène, là, et il venait charger le chargement de conteneurs. Et alors les camions partaient de là-bas, chargés, allaient à regarder là, chez eux, décharger le matériel et repartir. Et avec les bœufs, ils nous descendaient l'armement en bas. Voilà.
Il y a eu aussi, là je vais vous faire rire, hein, là je vais vous faire rire, il y avait notre maquis qui était au bord du Vior. Eux, ils n'avaient pas de munitions. Comment faire ? Ils sont venus du camp de l'Oriol, à côté du Vior, et ils sont venus ici, à l'Escure, à Fevin. Comment avoir des armes ? Il y avait ceux qui étaient au courant, qui les avaient, mais ceux-là qui sont arrivés, les FTP, qui sont revenus de l'Oriol, ils n'avaient pas d'armes. Hein, et ils ne savaient pas comment en obtenir. Alors ils ont dit, on va faire beaucoup de bruit avec les casseroles. Et alors ceux qui ramasseront les armes, ils prendront peur et nous, on va se les approprier. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait beaucoup de bruit, vous savez, un soir. Et puis alors, ils ont eu des armes. Et puis après, quand même, ils se sont entendus. Et après, avec ces armes, qu'est-ce qu'ils en ont fait ?
Alors, bon, je voyons dans nos vertes campagnes. La 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 la. Car j'aime respirer l'air pur de nos campagnes. Je suis la liberté, vous voyez, liberté. Alors c'était nos instructeurs qui nous faisaient chanter ça. Ils nous faisaient chanter ces terres, nos instructeurs. Alors on marchait, vous savez, on entendait, il y a des cailloux sur, je me revois marcher. Sur toutes les routes, il y a des chagrins. Et pour guérir le moral en déroute, il y a des filles sur tous les chemins. Alors, vous voyez un peu le spectacle.
Et il y avait des problèmes d'intendance. Il fallait les nourrir. Alors, il fallait prendre contact avec la population. Et là, il y a eu, suivant les régions, des problèmes. La population, au début, la majorité, ne savait pas, surtout avec les premiers résistants, à qui ils avaient affaire. Et l'atmosphère, l'attitude de la population par rapport à ces gens-là, a été par endroits difficile. Puis quand ça a été les jeunes, leurs propres jeunes, qui étaient concernés, qu'ils se sont aperçus que vraiment ces gens fuyaient une contrainte, fuyaient l'Allemand, là, peu à peu, la population, l'opinion s'est transformée. Alors, ces maquis étaient un peu dispersés. Il était nécessaire de faire des regroupements. Mais les relations, pour aller d'un maquis à l'autre, c'était difficile. Les liens ont pu se faire grâce à deux personnels qui pouvaient naviguer. Personnels qui pouvaient naviguer à l'époque, ben c'était les facteurs et c'était les employés des ponts et chaussées, la DDE d'aujourd'hui, qui eux, de par leur fonction, pouvaient aller et venir se promener dans le département. Et c'est eux souvent qui ont servi d'agents de liaison, avec les conséquences pour eux. Parce que les Allemands se sont vite aperçus que les informations circulaient et qu'ils ont bien cherché, évidemment, à savoir comment se faisaient ces transmissions. Et il y avait également toute une série de surveillances, ne serait-ce qu'ici, tous les alentours. Il y avait, pour le maquis du Guesclin, quelqu'un qui surveillait le pont, l'arrivée. Il y avait quelqu'un qui surveillait au niveau de l'arrivée sur Rignac, de l'arrivée sur Yeu-Pérou. Vous voyez, on était obligé pour protéger le maquis là où il était installé.
À résistance, il est arrivé que des agents de liaison qui partaient de Toulouse pour Paris ne sont jamais arrivés. On avait un copain de Toulouse qui était très blond, très très blond, avec des cheveux longs, très blonds, et il lui avait été arrivé de faire des missions Toulouse-Paris habillé en sœur, en bonne sœur. Ça passait très bien, mais en attendant, bonjour, il n'est plus revenu. Ça arrive, alors. Évidemment, quand on avait des pépins comme ça, c'était pas rigolo, c'était pas marrant. Alors, on attendait, on voyait jamais qu'il revienne. Alors, on savait fort bien qu'une fois, il s'était fait piper quelque part. Bon, enfin. Et au maquis, c'était pareil. On n'était pas mécontents au maquis. On avait une impression de sécurité parce qu'on était en groupe, on était armés, on était habillés. On avait le chef qui savait faire la guérilla, qui l'étudiait, qui continuait à travailler là-dessus. Le seul ennemi, c'est que quand il y avait un accrochage quelque part, à Montbazin, dans la rivière, là, le 21 juillet 44, ou le 1er août 44 à Via Rouge, on laissait toujours quelques plumes. C'était pas agréable, Paris, les jours d'après, d'enterrer quelqu'un d'un côté ou de l'autre. Même on l'a enterré à Mirabel, un cimetière désaffecté là-bas, où il est encore d'ailleurs, que la famille, qu'on n'a jamais pu retrouver, la famille, elle n'a pas pu le récupérer. Alors, ça arrivait, ça. On avait des gens qui étaient venus en résistance au maquis qu'on ne connaissait pas. Ils avaient des faux noms. Ils vous donnaient des faux renseignements. Et alors, vous ne saviez pas qui c'était. Celui de Prévenquer, là-haut, il avait dit s'appeler Renard Julien. Alors, j'ai fait faire des recherches pendant longtemps et il était né à Angers. Alors, j'ai fait faire des recherches de la mairie de la Fouillade à la mairie d'Angers. On ne l'a pas retrouvé sur l'état civil, et ce qui fait qu'il est resté là-haut, il est toujours là-haut. Et la famille, on aurait aimé quand même que la famille sache qu'il était là, pour que les petits-enfants ou les petits-neveux, tout ça, sachent qu'il y avait un aïeul, quelqu'un qui était là. Maintenant, on n'a jamais pu retrouver la filière. Bon, c'est comme ça.
pourquoi votre maison a brûlé?
Pourquoi ma maison a brûlé? Bon, alors, le 17 août 1944, c'était le moment où les maquis ont voulu libérer Clermont. Une colonne allemande, donc, est descendue de Rodez avec 3 camions, 1 canon, et ils ont été arrêtés à la bordure de l'Aveyron, sur le Vior, au pont de Tanus. Parce qu'il y avait donc les maquisards qui étaient de l'autre côté du Vior et qui ne voulaient pas laisser passer le pont. Le matin, le pont avait été coupé, c'est-à-dire dynamité, par les résistants de Rodez. Les Allemands n'ont pas pu traverser le Vior. Pourquoi ? Ils allaient à Clermont pour prendre à revers, c'est-à-dire pour aider les Allemands de Clermont à résister, si vous voulez. Mais seulement, ils ont été arrêtés, alors de rage, quand ils sont remontés, ils ont brûlé les maisons et on a été pris en otage à ce moment-là. Voilà.
Où êtes-vous allé quand votre maison a brûlé?
Comment ça s'est passé, je vais vous dire. Voilà. C'est terrible tout ça, ce qui s'est passé. C'est terrible. Je suis sortie à la fenêtre et j'ai vu les camions qui arrivaient. J'ai dit, bien ça, maintenant, on est pas. Il y en avait 3 Allemands. Il y en a un qui est monté dans la maison, qui a pris du linge dans une armoire et qui a allumé la maison. Alors moi, ma petite sœur étant dans le lit, j'ai dit, eh bien, comment je vais faire? Je n'étais pas sortie de la maison encore. J'ai appris, les Allemands sont venus, ils m'ont prise, et alors je leur ai expliqué, si bien que j'ai pu, j'ai expliqué qu'il y avait ma petite sœur dans le lit, et que je voulais aller la chercher. Et alors un Allemand est monté derrière moi, et on est allé chercher ma petite sœur pour qu'elle ne brûle pas dans le lit, voilà, tout simplement. Et alors après, ils nous ont gardés en otage pendant 2 heures, alors pendant que la maison brûlait.
Peut-être arrêtez-vous parce qu'ils ont des questions là-dessus.
Avez-vous failli vous faire tuer?
Eh oui, on a failli. On a failli parce que... On a failli vraiment, parce qu'ils nous posaient toujours des questions. Où sont les maquisards? Où sont les jeunes? Et il fallait essayer de se défendre aussi bien qu'on pouvait par la parole. On n'avait que ça. Alors on pensait l'énervement et puis il y avait mes parents, mais ils ne pouvaient plus parler. Ils avaient tellement peur que... Quand il y avait quelque chose qui brûlait dans la maison, vous savez, des fois, quand il y avait par exemple une bonbonne d'eau de vie, vous savez qu'est-ce que c'est l'eau de vie? C'est de l'alcool. Alors quand cet alcool s'est mis à brûler, ça fait comme une espèce de bombe. Et alors ils disaient, mais il y a des armes, il y avait des armes dans la maison, il y a ceci, il y a cela. Vous savez, ils étaient tout le temps en train... Ils nous ont fait mettre derrière une haie, là. Et alors, ils nous ont harcelés, à ce moment-là. Harcelés, vraiment, toujours posé des questions. Se demander quand est-ce que ça allait s'arrêter. Hein. C'était terrible. Mais ils nous ont mis avec le fusil. Voilà.
Est-ce que vous avez eu peur?
Ben oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur, mais j'étais tellement énervée que... Je ne savais plus comment. Et oui, j'ai eu peur. Oui. Ils sont restés jusqu'à ce que les maisons soient brûlées. Il y en avait 4 dans le village. Et ils en avaient brûlé avant, dans l'autre village aussi, avant de venir jusque chez nous, à la baraque Saint-Jean. Et là, ils ont tué un monsieur, oui, parce qu'il était sorti de sa maison et ils l'ont tué. Je vais vous raconter quand même une histoire. Pendant qu'on regardait ça, pendant qu'ils nous tenaient là comme ça, ils avaient pris un monsieur à la maison voisine qui avait été un ancien prisonnier. Je les ai vus passer tous les deux, l'Allemand et le monsieur. Et alors on ne savait pas qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur qui a parlé en allemand parce qu'il avait été prisonnier à la guerre de 14 avant. Et alors, il a dit à l'Allemand, ne me tue pas, voyez bien. J'ai été en Allemagne, moi aussi, j'ai fait la guerre de 14. Et comme il était tout seul, l'Allemand, il lui a dit, couche-toi, je vais tirer. Et bien sûr. Le monsieur qui s'appelait Monsieur Chabal s'est couché. Il a fait semblant d'être mort. L'Allemand est revenu. Et puis après, il s'en est allé dans les bois pour expliquer aux tout jeunes qui étaient dans les bois de ne pas s'approcher au moins, parce qu'ils auraient été fusillés. Voilà. Hein. Et vous ne trouvez pas que c'est beau, ça? L'Allemand l'est quand même laissé. Oui. Mais il était tout seul. S'il y en avait eu deux, il n'aurait pas pu le faire, vous comprenez? Et si le monsieur n'avait pas parlé allemand, il aurait été lui aussi fusillé. On le prenait pour le fusiller. Ça, c'est une belle histoire. Hein, vous ne croyez pas? Hein?
On avait un hôpital complémentaire à Ripérou. On avait un groupe à Wabrot-Izaak, Hollande, qui s'occupait des stocks qu'on avait mis là-bas, de vêtements, de souliers, tout ce qui n'était pas consommable, ou d'armes ou de munitions, parce que là, on l'aurait piqué aussi. Qu'est-ce qu'on avait encore? On avait tout un tas de services extérieurs, ce qui fait qu'on a eu jusqu'à 1500 hommes ou femmes qui se sont occupés du maquis de Wicklem. C'était un des plus importants de la région, avec le maquis d'Ols.
Est-ce que vos frères sont partis à la guerre?
J'avais deux frères au maquis, Antoine, qui se trouve à Villelongue, et ils ont fait la bataille de Carmaux. Et puis un de mes frères, a continué après, il s'est engagé. Certaines personnes des maquis de l'Aveyron ont formé le bataillon de l'Aveyron, qui est allé jusqu'en Alsace après, jusqu'au 8 mai 1945 et jusqu'en Autriche. Donc, ils ont continué la lutte après que Carmaux et Rodez aient été libérés.
On avait signé un engagement pour la durée de la guerre.
Et donc, vous êtes parti vous battre après.
Non, mais Bourtoumi a été. Et moi, j'avais signé l'engagement pour la durée de la guerre. J'ai même été chercher les chaussures pour le bataillon à Asparren, dans les Pyrénées-Atlantiques. Il y avait une fabrique de chaussures, il fallait les chausser, tous ces gens-là. Et alors, je suis parti avec le capitaine Régis et trois maquisards, mitraillettes et grenades. Et on est resté là-bas une semaine en attendant que toutes les chaussures soient prêtes. Et alors, bon, je suis revenu, on était tous regroupés à Rodez. Et juste avant de partir, je suis tombé malade. J'ai fait une angine phlegmoneuse. J'étais tellement mal, on n'était pas bien soigné à l'époque, je ne pouvais même pas marcher. Donc j'ai été hospitalisé à l'hôpital militaire à Rodez et je suis resté à l'état-major avec le colonel Benoît. Vous savez là comment ça se passe. Mais enfin, les copains, ils ont été jusqu'en Allemagne. J'ai signé l'engagement militaire, c'était en septembre 1944. Donc ils sont partis fin septembre, début octobre, vous voyez. Et on les a incorporés et ça a constitué le 81e régiment d'infanterie de Rodez. Donc ils ont fait la campagne d'Alsace, d'Allemagne, et ils ont été jusqu'au Tyrol.
D'accord. Voilà. Et ça, c'était la plupart des jeunes du maquis qui s'engageaient?
Ah non, quand il a fallu signer l'engagement militaire pour la durée de la guerre, c'était libre. Hein. Eh bien, il y en a beaucoup qui ont signé, mais il y en a beaucoup qui sont revenus chez eux. Ils sont rentrés dans leur foyer, quoi.
Il fut un temps que sur toutes les places, un vol de loups à la sorte d'Hitler, ici venaient passer leurs menaces en se vantant qu'ils tenaient l'univers. Mais un matin, les fils de la montagne, les maquisards, tombèrent comme un éclair, tous ensemble, sur les bandits d'Allemagne qui fuyaient à coups de pied. Ô rocher de Mirabel, bois de Prévinquière, notre cœur de 20 ans vous doit fidélité. D'abord que le maquis, un jour dans la clairière, y a éclos et chanté la liberté. Quand nous irons sur les routes de France, chasser les loups qui venaient nous mordre, pleins de courage, remplis d'espérance, nous les apprendrons à se retourner jusqu'à Strasbourg et jusqu'en Allemagne. Nous les mènerons comme nous savons faire. Et les anciens de Verdun et Champagne salueront en nous voyant passer. Là-bas, bien loin, quand nous serons en Boccio, dans les hangars d'Hambourg et de Berlin, nous nous rappellerons chacun de notre ami qu'en partant, on vous a toutes abandonnés. Nous nous rappellerons des bois qui chantaient les soirs de printemps où il y a tant de splendeur. Oh, pleurez pas, petits yeux qui nous tentaient. Nous reviendrons bientôt pour vous parler d'amour.
Raconte-moi la résistance et le maquis de Prévinquière. Ce documentaire a été réalisé par Sophie Pillot en octobre 2009. Un grand merci pour leur témoignage à Georges Allette de La Fouillade, Berthe Pandariès, Marcel Caillan et Odette Thomas de la Selvetat-Pérales, Roger Poux, président départemental de l'Association nationale des anciens combattants de la résistance, Paul Rayette et André Bourtoumieux de Rieux-Pérou, Denis Trouche de Prévinquière. Le chant des partisans a été interprété par la chorale Modulance et les enfants de l'école Alechinski. Le chant d'Henri Mouly, dédié au maquis de Prévinquière sur l'air des Allobroges, est interprété et traduit par la chorale Modulance. Extrait du spectacle « Résister, c'est exister » d'Alain Guyard, qui fut proposé à Rieux-Pérou en octobre 2009, en même temps qu'une exposition de Didier Estival intitulée « 1940 ». Ce documentaire a été réalisé grâce au soutien de la communauté de communes Aveyron Ségalaviore et au comité Forêt Expo de Rieux-Pérou.
Quand vous avez 20 ans, vous êtes jeune, vous êtes généreux, et nous c'était ça, liberté, il fallait à tout prix chasser les boches, on appelait, qui nous avaient fait tellement de misère. Hitler, c'était un monstre. Hein? La race aryenne. Il fallait détruire tout ce qui n'était pas aryen. Hein? Non, d'ailleurs, vous voyez, dans le bouquin, je pense qu'on l'a très bien mis.
Hein? Elle est belle, cette affiche pas de la liberté.
Bleu, blanc, rouge, là, c'est dommage. Bon, à cette époque-là, on ne faisait pas de la
couleur. Noir et blanc, oui.
Voilà, vous voyez, c'est ça, liberté. Et même à l'heure actuelle, hein, c'est toujours valable à l'heure actuelle. Les dictatures, les oppressions, tout ce qui se passe, hein, c'est affreux. Allô, je voyant, dans nos vertes campagnes, la 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 la, la 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 la, car j'aime respirer l'air pur de nos campagnes, je suis la liberté, la liberté.